Voilà, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Alors, aujourd'hui, j'ai cherché un titre pour ce message. Le titre, les Romains disaient, je crois, Titulus. Il y en avait justement un qui était accroché au-dessus de la croix de Jésus. Un titulus, on appelle aussi un écriteau, un titre. En fait, c'était le titre qu'on mettait, par exemple, au-dessus du crucifié. Alors, il y avait écrit quoi au-dessus de Jésus ? Inri ? Oui, c'était en trois langues. Alors, moi, j'en mets une quatrième en français. Et le titre de ce message d'aujourd'hui, c'est « Les trois larrons ». Les trois larrons. Ça ne se dit plus du tout, les larrons. Hein, on dit à la limite des bandits. Ça, les gens comprennent encore. Mais les larrons, c'est vraiment un langage qui n'est plus qu'utilisé dans la Bible. Et puis, on dit qu'ils s'entendent comme des larrons en foire. C'est comme des bandits qui en profitent. Ça existe toujours encore. Hein, quand il y a un grand match de foot, il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Les pickpockets, ils arrivent, ils se répartissent là-dedans, hein, comme des larrons en foire. Donc les trois larrons, je vois déjà des gens qui tiquent. Bon allez, on va changer. On va prendre les trois écriteaux. On garde les trois larrons pour après. Alors effectivement, au-dessus de la croix de Jésus, il y avait écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs » en trois langues. En latin, hein, c'était la langue de l'Empire romain, comme c'est les Romains qui le crucifient, ils le mettent en premier. C'était aussi écrit en grec, la langue commerciale, et même en hébreu, hein, pour que les Juifs comprennent bien ce qui peut leur arriver si jamais ils osent se rebeller contre l'Empire romain. Et on l'écrit des fois I-N-R-I, comme vous le voyez ici. Alors ne me demandez pas de lire... si, d'accord. Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Ouais, j'ai pas fait de latin à l'école, ça s'entend. Par contre, vous remarquez qu'il n'y a pas de J. Hein, ce sont des I. Parce que à cette époque, en latin, le I et le J étaient confondus. C'est ce que j'ai lu. Hein, je ne sais pas de moi-même. Et donc, ça nous donne le panneau INRI que l'on voit très souvent. Sur les crucifixes, hein, quand on regarde des monuments historiques, on voit marqué INRI. Donc Jésus a été crucifié parce qu'il est roi. Jésus, roi, il est roi. Et d'ailleurs, quand il parle avec Pilate, il parle comme un roi. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais par exemple dans Jean 19, Pilate rentre dans le prétoire, il appelle Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répond « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Un prisonnier ne répondrait jamais ça. Hein, mais Jésus n'est pas un prisonnier, il est roi. Et il veut amener Pilate à s'impliquer lui-même dans la discussion, à ne pas se référer juste à ce que d'autres disent, mais il veut vraiment l'amener dans une vraie discussion avec lui. Et donc Pilate, il prend la mouche, hein. Déjà un prisonnier qui lui répond comme ça, « Suis un juif, moi, ta nation, et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Et le cas tu fais, c'est intéressant. Pilate, cette fois-ci, lui demande de dire les faits. Et là, Jésus rentre dans cette discussion, il se présente. Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Oui, il rentre ici dans une discussion en se présentant à Pilate. Et Pilate, il dit, « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et il s'en va. Oui, Pilate, maintenant, il est rentré dans une discussion avec Jésus et très rapidement, ça va trop loin. Ça va trop loin pour lui. Et il coupe la discussion. Ensuite, il sort, il va voir les Juifs à l'extérieur et il dit, « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Aucun motif. Il est innocent. Oui, Jésus a dit, « Le royaume, mon royaume, n'est pas de ce monde. » Mais nous savons aussi qu'un jour, ce royaume va absorber tous les royaumes de ce monde. Et Jésus s'assiera sur son trône de gloire et il jugera. Et il nous est dit dans Matthieu 25, « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Oui, Jésus, il est le roi des rois. Et quand il a été crucifié, il y a cet écriteau qui le présente comme étant roi. D'ailleurs, il y a quatre versions dans la Bible, hein, il y a quatre évangiles, il y a quatre versions pour cet écriteau. Dans Matthieu 27, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Dans Marc 15, le roi des Juifs. Dans Luc 23, celui-ci est le roi des Juifs. Et dans Jean 19, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Tout l'accent est mis sur le roi des Juifs. C'est pour cela qu'il est crucifié. C'est le titre qu'il y a au-dessus de sa croix. La plus retenue, c'est celle de Jean. Peut-être parce que Jean, il était avec Marie, tout près de la croix, alors que les autres, ils étaient sauvés un petit peu partout, alors que l'on crucifiait leur maître. Alors, juste un truc qui m'a semblé époustouflant, c'est quelque chose qui est relevé par l'Institut d'études bibliques d'Israël, c'est qu'en hébreu, la phrase « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs », donc c'est ce qui est écrit en bas, vous avez vu que bon, ça se lit de droite à gauche, pas de gauche à droite. Donc la première lettre à droite, elle est en noir. Le deuxième mot, le troisième et le quatrième aussi, les lettres sont en noir pour faire ressortir eh bien, le mot le plus sacré qu'il y a chez les Juifs, c'est Yahvé. Ce que nous on traduit par Yahvé, le nom même de Dieu. Alors, est-ce que ça serait une des raisons pour laquelle les Juifs sont dit oh, « Change le texte, s'il te plaît, Pilate, parce que là, la première lettre, nous les Juifs, on connaît, on a des psaumes comme ça, entiers, avec la première lettre qui reprend tout l'alphabet. Alors, je ne sais plus le numéro du psaume. Victor, tu te souviens quel est le psaume qui reprend tout l'alphabet Ouais, on ne connaît pas le numéro, mais bon, vous pouvez trouver. C'est un psaume qui reprend chaque fois la première lettre. Il y a une phrase qui utilise ensuite la deuxième lettre. Donc, ils avaient l'habitude, les Juifs, d'utiliser les premières lettres comme ça. Et là, ça fait un peu peur. Donc, on change, s'il vous plaît, monsieur Pilate. On met un autre texte. Parce que quand même, crucifier quelqu'un qui se fait appeler Dieu, c'est exactement ce qu'ils voulaient, les Juifs. Parce que quand Pilate leur a dit, bon, écoutez, il est innocent, on ne peut pas crucifier un innocent. Et là, ils lui disent, mais non, il s'est fait fils de Dieu. Ah ! Pilate, il a eu une sueur. Quoi ? Fils de Dieu, donc en gros, c'est Dieu. Là, il est retourné demander à Jésus, mais attends, t'es qui au fait, vraiment ? Oui, Jésus a été crucifié parce qu'il est roi, mais aussi parce qu'il est Dieu et que les hommes ne voulaient pas que Dieu règne sur eux. Alors pourquoi Pilate, il cède et il le crucifie quand même ? Même sa femme lui a dit, écoute, laisse tomber, j'ai fait un cauchemar cette nuit, tu ne touches pas à ce type. Hein, tu laisses, hein, tu laisses repartir. Mais il cède parce que les chefs des Juifs lui disent, en le regardant droit dans les yeux, nous n'avons de roi que César. Non, mais imaginez ce qui balance, eux qui attendent le Messie qui les délivrera des Romains. Ils envoient le Messie à la croix parce qu'ils n'ont de roi que César. C'est impressionnant. En effet, nous lisons dans 2 Corinthiens 5, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ. Et il a réconcilié le monde. Alors, les trois larrons, on va commencer par le premier. Le premier, on va lui mettre... Alors, il avait sûrement son écriteau aussi, hein, avec tous les crimes qu'il avait commis. Alors moi, je vais vous proposer... ça. Je suis mon roi. C'est l'écriteau qu'on pourrait mettre au-dessus de la croix de ce bandit qui a dit à Jésus, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Si tu es le Messie, ça vous rappelle quelqu'un ? Oui ? Satan dans le désert. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Hein, il l'avait emmené en haut du temple. Et les anges te porteront sur leurs mains, comme le dit la Bible, hein, l'Écriture. Et Jésus lui répondit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est comme si le diable, par la bouche du bandit, disait encore à Jésus, prouve au monde que tu es le Messie. Tu ne vas pas accepter de mourir sur cette croix. Allez, force un peu Dieu à agir. Mais Jésus avait déjà vaincu deux fois cette tentation. Une fois au jardin de Gethsémané, quelques heures auparavant. Et une fois aussi à Jérusalem, quelques jours auparavant. Dans Jean 12, nous lisons, maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. C'était quelques jours avant. Jésus Il avait cette tentation de dire, ok, pas besoin d'aller à la croix. Mais non, je suis venu pour cela. Je suis venu pour cela. Et c'est pareil dans le jardin de Gethsémané. Il y a symbolique de la coupe, où Jésus dit, oui, qu'il aimerait ne pas boire cette coupe. Et après, il dit, je veux faire ta volonté. Je veux l'accepter. Et c'était un combat qu'il a gagné. Et maintenant, on a le larron qui lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Non, il a gagné. Il est sur la croix. Il a choisi d'y aller pour le salut de l'humanité. Dans son message « Les trois clous », Fernand le Grand parle du clou de l'obéissance qui a retenu Jésus sur la croix. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cet écriteau « Je suis mon roi » ? C'est parce que le bandit, il donne un ordre à Jésus pour s'en moquer. Dis-toi, soi-disant le Messie, ben vas-y, prouve, montre-nous. En fait, t'es juste cloué comme nous. T'es juste un minable, un incapable. Tu es insignifiant. Personne ne t'aime. Tes disciples sont tous partis. Oui, les insultes, c'était indirect. J'ai l'impression que dans la culture juive, l'insulte, c'est sous-entendu. Je dis, si tu es le Messie, descends de la croix. Puisque tu ne descends pas, c'est que tu ne l'es pas. Oui, il est là. Il est toujours celui qui commande, celui qui veut rester le maître de sa vie, même en mourant. Il est son roi. Et ce Jésus, il faudrait qu'il lui obéisse. Et là, je me pose la question pour moi, en tant que chrétien, est-ce que c'est moi-même mon roi ou est-ce que c'est Jésus mon roi ? Est-ce que j'ai choisi Jésus parce qu'il est capable de répondre à mes exigences ? Ou est-ce que c'est moi qui veux répondre à ses exigences à lui ? Lorsque j'ai rencontré Jésus, moi, dans ma vie, je vivais un peu comme le premier larron, c'est-à-dire que j'étais né dans une famille chrétienne. Je priais, je lisais ma Bible, pas très régulièrement, encore aujourd'hui. Mais le problème, c'est que j'étais mon roi et que Jésus, il devait faire ce que moi je lui dis. Il devait me pardonner quand je faisais des péchés. Et je me débattais dans mes péchés. Je n'arrivais pas à en sortir parce que c'était toujours moi, le roi, dans ma vie. Je suis mon roi. Oui, Jésus aurait pu descendre de la croix. Mais s'il avait fait cela, il n'y aurait pas de place pour nous dans le ciel. Pas de place avec Dieu. Du coup, on arrive au deuxième larron. On va lui mettre un titre. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Dans Luc 23, verset 40, nous lisons « Mais l'autre larron le reprenait et disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors il semble, d'après d'autres récits, dans les autres évangiles, que les deux criminels insultaient Jésus. Et dans le milieu des bandits, on sait rapidement qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Je me souviens d'une amie qui me racontait que son petit frère, c'était un dur. Tous les profs se sont cassés les dents, les parents se sont épuisés. Il était trop dur, vraiment. Et finalement, il est allé à la Légion étrangère. Il s'est inscrit. Et quand les autres l'ont vu, ont discuté avec lui, ils ont dit « Mais toi, t'es un enfant de cœur. » Hein, il savait reconnaître qui avait commis des choses terribles et ceux qui étaient juste un peu dur. Et bien là, très rapidement, le deuxième a remarqué que ce Jésus-là, il n'était pas comme eux. Il s'est rendu compte que ce Jésus-là, il était différent. Et quel contraste, hein ! C'est quelque chose que je trouve incroyable. Il est accusé par des religieux et il est disculpé par un criminel. Jésus, accusé par les religieux, disculpé par un criminel. Et ce deuxième bandit fait même un reproche au premier. Il lui dit, « Ne crains-tu pas Dieu ?» Ils sont en train de mourir. Ils savent qu'ils vont rencontrer Dieu dans les heures ou les minutes qui vont suivre. Que Dieu est juste et saint. Et il y en a un qui fanfaronne encore, hein, qui lui dit « Vas-y, prouve-le et sauve-nous avec nous pendant que tu y es. » Ce criminel, donc le deuxième, lui, il suit un chemin de repentance. Il reconnaît que ce qui lui arrive est juste. Alors attention, hein, dans les traditions chrétiennes, on dit le bon larron et le méchant larron. C'était deux méchants larrons. Hein, quand ils ont torturé quelqu'un, ils l'ont tous les deux torturé, pour lui prendre son argent par exemple, hein, j'imagine. C'était un vrai larron, un vrai criminel, un vrai bandit. S'il était crucifié, ce n'était pas parce qu'il était trop gentil et qu'il n'osait pas taper les gens quand il leur prenait leur porte-monnaie. Ok ? Donc ça n'existe pas, hein. On efface le bon et le méchant larron. Par contre, celui-ci, il reconnaît que ce qui lui arrive, c'est juste. Il paye le prix des choses horribles qu'il a faites. C'est terrible, hein ? C'est terrible de penser qu'il fallait qu'il soit cloué sur la croix pour se repentir, pour reconnaître ses fautes. Ça veut dire que Dieu, des fois, il est obligé de nous arrêter par la maladie, par l'échec de nos vies professionnelles, scolaires, sentimentales ou bien d'autres choses pour nous amener à reconnaître nos fautes. Oui, Dieu est obligé, quelque part, de nous amener jusqu'au bout de nous-mêmes. Pour qu'on cède et qu'on dise « Ok, je reconnais mes péchés, je te demande pardon. » Ce bandit nous apprend aussi autre chose, il nous apprend ce qu'est la grâce de Dieu. En effet, après avoir reconnu son état de pécheur, il demande à Jésus de se souvenir de lui quand il viendra régner. Et là, Jésus lui annonce le salut de son âme, « Aujourd'hui, avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, avec moi dans le paradis. Un salut pour un criminel qui ne pourra jamais se racheter, qui ne pourra jamais faire une bonne chose, parce qu'il est sauvé gratuitement. Ouais. Par le prix que Jésus est en train de payer à côté de lui. C'est ce que nous appelons la grâce. Et pourquoi est-ce qu'il a accès à ce cadeau, à cette grâce? Ben, tout simplement parce qu'il a mis sa confiance en Jésus. Vous imaginez tous les disciples qui sont partis, les femmes qui pleurent, Jean à côté d'eux. Et le brigand, il dit, quand tu viendras dans ton règne. Donc pour le brigand, ce Jésus qui est en train de mourir, c'est celui qui va régner. Il croit que Dieu va donner le règne à Jésus. Il a la foi. Lui, il voit déjà un Christ ressuscité, un Christ vivant. Oui, le premier bandit, il voulait être le roi de sa vie. Et le deuxième, il reconnaît Jésus comme son roi. Alors vous me direz, ok David, on a bien compris les deux brigands, où est le troisième? Le troisième larron? Dans Marc 15, ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. Le troisième. Dans Jean 18, « Mais comme c'est une coutume parmi vous que je relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, ils crièrent tous, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Quand Pierre a guéri le lépreux tout au début du livre des Actes, dans Actes 3, il a un discours très fort avec les Juifs qui étaient là. Il leur dit, « Mais vous, vous avez renié celui qui était saint et juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. » Barabbas, c'est le troisième larron, le troisième bandit. Oui, Pierre dit qu'ils sont devenus des meurtriers pour sauver un meurtrier, pour sauver Barabbas. Pour moi, Barabbas, c'est le symbole de l'humanité. L'humanité sans Dieu. Mais contrairement aux deux autres, cet homme, il a du sursis. C'est Jésus qui a été crucifié, alors que c'est Barabbas qui devait s'y trouver. Il a maintenant la possibilité de continuer de vivre sans se soucier de Dieu ou de changer de vie. Il a du sursis. Il peut choisir. C'est Jésus qui a pris sa place. Et dans la Bible, on a cette image du bouc émissaire. Le sacrificateur posait ses mains sur un bouc et il confessait les péchés du peuple. Toutes les choses injustes, toutes les choses mauvaises que le peuple avait commis, il les confessait, il les prononçait en posant ses mains sur le bouc, et ensuite on prenait ce bouc et on l'envoyait dans le désert avec tous les péchés du peuple d'Israël. C'était le jour du grand pardon, hein, qu'on appelle le Yom Kippour. C'est ce jour-là qu'on utilisait le bouc émissaire. Comment est-ce qu'on peut, nous, mettre aujourd'hui nos péchés sur le bouc émissaire? Eh bien, simplement par la confession. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous dit l'apôtre Jean, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Oui, confessez. Les dire à Dieu, à Jésus. Parfois la confession, eh bien, c'est nécessaire qu'on la fasse avec d'autres chrétiens pour descendre de notre trône. Et c'est comme ça que j'ai vécu le changement dans ma vie, ma conversion à Jésus. J'étais donc dans cet état de chrétien qui dirigeait sa vie, qui était son propre roi, et ça n'allait pas. Et un jour, je faisais du vélo, et je dis à Dieu, je descends cette pente, quand j'arrive en bas, il faut que tu m'aies donné une solution. Je ne peux pas continuer cette vie chrétienne qui n'en est pas une. Je suis descendu, et dans la descente, Dieu me disait, mais va confesser tes péchés. Hein ? Quoi ? Confesser ? Alors je suis allé trouver mon papa qui était ancien dans l'église et j'ai dit, ben, je veux te dire les péchés, les choses que je fais en secret, je veux demander pardon. Et on a prié ensemble et j'étais un autre David. À partir de ce jour-là, j'ai voulu parler de ce Jésus qui libère, qui enlève nos péchés, qui est vivant. Ce Jésus qui a fait de moi son enfant. Alors, pour terminer, à quoi sert la résurrection ? Ben oui, Jésus est mort pour les bandits. Il est même mort à la place de Barabbas. Il est mort pour moi, pour les pécheurs. Il a pris mes fautes et il les a enlevées. Je suis considéré comme juste à sa place. Ça suffit, non ? Pourquoi donc la résurrection ? Eh bien, la réponse, on ne la trouvera pas chez les larrons, parce que eux, ils sont morts. On la trouvera pour ceux qui sont vivants. Je vous invite à lire dans Romains 6, on va l'afficher, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Jésus est ressuscité pour que nous puissions vivre avec lui, avec Dieu, une vie nouvelle. Un peu plus loin dans Romains, de la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes vivants pour Dieu. Et encore un peu plus loin, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Avec le baptême, on le comprend, on est mort avec Jésus, et on est sorti de l'eau, on est vivant, et on peut vivre maintenant pour Dieu. Oui, on aimerait des fois être comme le bon larron, c'est-à-dire aller au paradis avec Jésus sans avoir besoin de vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quand même un peu difficile, hein ? Eh bien, la résurrection, c'est la réponse à nos difficultés à vivre pour Dieu. Jésus est vivant, il vit par nous, il vit par et pour Dieu, de même que je vis en Jésus pour Dieu, moi, le bandit pardonné. Dieu a rendu cela possible en donnant son esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit. On va juste afficher encore ce verset. Pour terminer, dans Romains 8, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Oui, Jésus est ressuscité pour que nous vivions, que nous puissions vivre avec Dieu. Voilà, alors, juste quelques applications à retenir. La première, c'est que Jésus est roi. Il n'a pas de compte à nous rendre, mais il veut une vraie relation avec chacun en particulier. Il y a deux possibilités. face à la souffrance et à la mort. La révolte, la colère, je n'accepte pas. Dieu doit intervenir comme je le veux. Ou au contraire, accepter ce qui nous arrive en mettant notre confiance dans le Christ. À retenir aussi, c'est que le salut, c'est par la foi seule. C'est pas par les œuvres, c'est pas par le baptême, c'est pas par nos souffrances. C'est juste par Jésus. À retenir aussi, c'est que nous vivons un temps de grâce, un temps de sursis. Mais ce temps s'arrêtera pour chacun, pour moi aussi. Et nous serons d'un côté ou de l'autre. Quel sera notre écriteau ? Jésus a pris sur lui nos fautes, nos faiblesses. Il a expié nos péchés, il a effacé nos mauvaises actions. Il est le bouc émissaire. Et nous avons juste à lui dire pardon. C'est aussi simple que ça. Oui, Jésus est ressuscité et il nous a donné son esprit pour que nous puissions vivre avec Dieu. Amen.